of love's drummers, kids in love, living for each other, that's the first taste.
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans les voies du scénarium. C'est beau micro, on va passer une heure ensemble pour cette dernière émission de l'année. J'espère de cette saison, parce que c'est pas de l'année, enfin vous imaginez bien qu'on travaille en année bizarre dans la radio, un peu comme dans l'administratif, dans l'administration et chez les scolaires. Je ne suis pas tout seul ce soir, je suis en compagnie de Nolwenn. Ça va Nolwenn?
Et bonjour, ça va bien et toi?
Ben oui, ça va bien. Et puis ce soir, on va faire un truc sympa, on va taper la discute avec quelqu'un, on va taper la discute avec Nicolas. Est-ce que tu nous entends?
Et je vous entends très bien, et toi, est-ce que tu m'entends?
Je t'entends très bien, tous les auditeurs t'entendent très bien. Tu nous appelles, enfin tu es en direct avec nous au téléphone depuis ta petite région qui est...
Toulouse.
Tu es de Toulouse. On se fait un joli duplex, c'est très drôle, j'aime bien ce genre de trucs. On va commencer avec toi directement, hein, si ça te va. Tu vas nous parler un petit peu de jeux de rôle, du jeu de rôle que toi tu as créé, qui s'appelle World's Awakening, si je me trompe pas.
Non, c'est exactement ça, World's Awakening, tout à fait.
Ok. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es?
Écoute, très bien, je m'appelle Nicolas Bédé, je suis de métier, je suis développeur web.
Okay.
Et j'ai commencé mon aventure dans l'univers du jeu de rôle en créant le site CoTRS, que c'est pas moi initialement qui l'ai créé, mais je l'ai repris pour en faire la version qu'on connaît aujourd'hui et qui m'appartient, et qui est un site dédié au jeu de rôle Chroniques Oubliées de version 1.
Ok.
Voilà, donc là vous pouvez le consulter, co-drs.org, il est toujours actif et il fonctionne toujours. Et suite à cette aventure, je me suis dit que ce serait intéressant de me lancer dans la création de mon propre jeu, parce que j'avais beaucoup aimé le fait de créer un système, de créer un site autour de ça, et c'est quelque chose qui m'avait passionné, et qui sortait un petit peu de des tâches un peu réparatives que je pouvais avoir dans mon métier et dans mon quotidien.
Ok, donc le jeu de rôle comme exutoire.
Et au départ, c'était ça, oui, tout à fait. Et là, j'en prends un petit peu la version très sérieuse pour en faire un plan un peu plus professionnel. On va voir ce que ça donne. Je me suis donné 3 ans et on en est à mi-parcours pour voir si ce projet en tant que voix professionnelle pouvait fonctionner.
Ok. On continue en parlant un petit peu de toi. Donc, tu fais du jeu de rôle depuis combien de temps?
Ah, c'est rigolo puisque j'ai commencé avec Chronique oubliée, un peu contraint et forcé parce que j'avais demandé au départ à une amie d'être si elle pouvait trouver un maître de jeu pour nous initier un peu à une bande de copains au jeu de rôle. Et une semaine avant de commencer, elle me dit « Ah, j'ai oublié de l'appeler !» C'était un peu tard, donc une ou deux semaines avant. Et puis là, je me suis dit « Bon, alors je vais m'y coller. » C'est là que j'ai eu ma première expérience avec Chronique oubliée et je me suis mis directement maître de jeu. Je ne suis pas passé par la case départ, je n'ai pas touché ma ligne 20 000 francs, c'était direct.
Et ça pique un peu.
Ça pique un petit peu, oui. Mais après, c'est que quand on se jette dans le bain, qu'on apprend mieux aussi à nager, en tout cas le plus vite.
Effectivement.
Je suis passé par là et j'ai commencé mon expérience de jeu de rôle là-dedans. Il y a plus de 15 ans, je crois, un ami qui m'avait fait découvrir son propre jeu de rôle qu'il avait créé. Et j'étais un peu frustré de ne pas voir ce qui existait, mais pas être passé par exemple par la case Donjons et Dragons, pour ne pas le citer, ou d'autres assez connus comme Pathfinder. Enfin, j'aurais bien aimé avoir eu cette connaissance avant de me lancer là-dedans. Mais j'ai commencé en ayant fait directement le pas de côté, en ayant le sentiment d'être un novice qui veut apprendre et qui veut aussi transmettre.
C'est une bonne façon de faire, hein, de toute façon.
C'est quelque chose qui se fait pas souvent. Bon, je me suis senti pas très légitime sur la partie jeu de rôle, mais je me suis senti très légitime sur la partie web. Donc, j'ai envie de faire un choix.
C'est l'essentiel. est-ce que tu as eu d'autres jeux dans ton expérience? Alors, des jeux qui t'ont plu, et est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont particulièrement marqué? Alors, peut-être le premier, carrément, mais...
Oui, je dois reconnaître que Chronique oubliée est celui qui m'a le plus marqué, parce que je cherchais un système simple et facile à appréhender, et y rentrerait, en tout cas le premier, puisque je me suis pas trop renseigné sur le deuxième du nom. Il était très simple en termes d'approche, en termes de compréhension. J'avais essayé de regarder Donjons et Dragons, et pour moi qui était complètement novice extérieur et qui voulait en plus être maître de jeu, je trouvais de suite que c'était trop complexe pour une première entrée en matière. Ce qui est un peu dommage puisque ça reste quand même la base, mais voilà. Non, j'ai pas eu après énormément de d'expérience dans l'univers du jeu de rôle. Je dois avoir quelques expériences. Si j'ai acheté récemment la panoplie Héros et Dragons que j'ai pu me procurer, qui n'est plus édité, mais c'est plus de la collectionnite qu'une véritable lecture assistée. Et je regarde de temps en temps ce qui se fait de la part de parfois d'amis, parfois ce qui sort. Je m'intéresse de façon, on va dire, pour ma propre culture, mais je ne vais pas aller rentrer dans la lecture approfondie et détaillée de chaque système.
Okay.
Déjà parce que ça me pollue un petit peu ma propre créativité. Je regarde, je me renseigne. Mais je vais à un moment donné dire stop, sinon après, je vais plus être un fan qu'un créateur. Donc il faut que je fasse un petit pas en arrière à certains moments.
Ouais, j'imagine bien. Et du coup, comment ça se passe ta création?
Alors comment ça se passe la création au niveau du système? Puisque moi, je suis parti à l'envers. Les 3/4 du temps, puisque je dis, ça me permet de placer aussi que je suis responsable d'un pôle à Octogone. La convention Octogone, je ne sais pas si tu connais.
Je connais un petit peu, oui, effectivement. J'y ai été une fois ou deux.
Voilà, ça se passe à Lyon, enfin à Villeurbanne, ça fait partie de Lyon. Et je suis responsable d'un pôle qui s'appelle La Forge. Et La Forge regroupe des créateurs non édités du jeu de rôle qui viennent présenter leur projet. D'ailleurs, cette année, ce sera encore d'actualité. Et ça me permet un petit peu de discuter avec les autres, de voir comment est-ce qu'ils ont créé, où est-ce qu'ils en sont dans leur conception, et de rassembler un petit peu ces différentes expériences. Et c'est, si tu veux, je peux un peu t'en parler à travers ce qu'ils ont pu me raconter, eux.
Avec plaisir.
Et ben, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont un lore, ils ont une histoire, ils ont quelque chose, ils ont envie de raconter forcément quelque chose, ils ont un univers dans leur tête, pas mal de d'éléments de narration qu'ils ont envie de mettre sur le papier. Et généralement, ça part comme ça. Ensuite, derrière, ils vont venir y adosser le système de règles. Et le système de règles va être généralement propre à ce lore. Ce qui fait qu'on a des jeux qui sont vraiment très très différents les uns des autres, avec des systèmes très différents. Bien sûr, il y a toujours un petit bout de socle que tu vas retrouver d'un jeu à l'autre qui va se ressembler. Genre par exemple, tu vas jouer avec des dés à 20 faces, hein, donc le D20 système. Certains vont utiliser des D100, donc le D100 système. Certains vont se contenter d'utiliser les dés à 6 faces. C'est les trois principaux que j'ai pu voir. Et après, il y en a encore une autre variante avec des gens qui ont des dés très très différents, où il n'y a même pas de numéro dessus. Donc ce sont des dés d'action. Je pense notamment, je crois que c'est les Star Wars qui font ça, je crois.
C'est là où on se rend compte que le jeu de rôle et le jeu de plateau, des fois, on sont très très proches l'un de l'autre quand même.
Ah, ce sont proches et loin, éloignés à la fois, je me suis aperçu. Parce que le jeu de plateau et le jeu de rôle, c'est pas du tout la même dynamique. Un jeu de plateau, tu vas avoir des règles, et les règles sont les règles. Point. Et personne peut aller à l'encontre, ou sinon ça s'appelle de la triche. Le jeu de rôle, c'est bien plus nuancé que ça, parce qu'on a des règles au départ, mais il y a un maître de jeu, et le maître de jeu, c'est lui finalement qui est garant que les règles soient respectées ou non. Donc forcément, il n'y a pas la même dimension qu'avec le plateau, on est plus dans quelque chose d'un peu plus théâtral, où on va parfois t'accepter quelque chose dans les règles, on te dit non, mais le maître de jeu, parce que tu as su le justifier, tu as su l'amener avec beaucoup de pertinence, va dire « je l'accepte ». Ce qui n'est pas possible en jeu de plateau, en général.
C'est plus complexe, ouais.
Ouais, voilà. En tout cas, la négociation est beaucoup plus rude. Donc, c'est pour ça que oui, le jeu de plateau et le jeu de rôle sont cousins. Je dis plus cousins, moi, parce qu'il y a forcément un terrain d'entente à certains moments, notamment quand on a envie de placer des pions, de lancer des dés, on va se dire oui, ça fait très plateau, mais on reste vraiment sur quelque chose où c'est le théâtre de l'imaginaire, tout se passe dans notre tête, on essaye vraiment de raconter quelque chose avec les autres. En y prenant du plaisir, hein. C'est déjà pas mal.
Effectivement. Est-ce que tu veux nous parler du coup de World's Awakening? Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la plupart des jeux commencent par écrire leur lore et puis derrière ils vont essayer de trouver le système qui leur convient. Ben moi j'ai fait l'inverse.
T'as fait système avant de mettre un lore dessus, c'est ça?
Exactement. En fait, comme je sortais de Chroniques oubliées et que j'avais pas mal apprécié le système, je m'en suis inspiré sans le copier. Et j'ai fait quelque chose qui me ressemblait plus, mais j'avais que le système en tête. À la base, je suis développeur, donc ce qui m'intéresse, c'est de connaître un peu la conception, les rouages, comment les choses tiennent. Et j'étais bien dans la technique, et donc basculer ça dans un système, mon expérience là-dedans, c'était ça que j'ai voulu faire. Au travers aussi d'un outil qui serait hyper accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que j'ai voulu proposer, c'était vraiment un site internet dans lequel tu retrouves tout accessible facilement et pas uniquement en format PDF. C'est vraiment un site outil. Tu vas pouvoir aussi créer tes personnages dessus, tu vas pouvoir consulter les règles, faire des recherches dans les règles et même créer tes propres créatures pour pouvoir les proposer à table. Et je voulais vraiment que ce site soit à mi-chemin entre le jeu de rôle en ligne et le jeu de rôle à table.
Ok.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux tout te faire imprimer, même tes fiches de créature. Tu crées ta créature, elle est très jolie dans le site web. Tu as un bouton imprimé et tu as un format adapté au papier que tu peux sortir facilement. Comme ça, tout est gratuit et tout est cool pour toi. Donc voilà, j'ai créé ce système comme ça. J'ai créé en y pensant, au fur et à mesure, en prenant les règles, et en essayant d'être le plus professionnel possible dans ma démarche.
Okay.
Avec le peu d'expérience que j'avais dans la connaissance du jeu de rôle, j'essayais d'amener un peu ce que moi j'estimais nécessaire pour quelqu'un qui est complètement novice et qui a envie de trouver l'information facilement.
Ah bah, impeccable. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu en quoi consiste le système en lui-même?
Le système en lui-même, c'est un des 20 systèmes. Au départ, je me suis adossé là-dessus parce que j'avais déjà un petit amour des dés. C'est un petit peu la maladie des rôlistes. Quand tu commences à jouer, c'est que tu commences à avoir plein de dés et que tu commences à aimer tes dés, à vouer un petit culte. Okay. Donc, je suis resté dans l'idée d'avoir cette panoplie de dés qui vont du dé à 4 faces au dé à 20 faces et qui est très classique et très courant. Donc, je suis resté là-dedans. Donc, le système est très simple. Tu fais des tests. Je ne sais pas si tes auditeurs savent ce que sont des tests.
On peut redonner un exemple, par exemple ?
Eh bien, un exemple, tu es un joueur qui a envie de soulever une énorme caisse bien lourde, mais je vais te demander de me faire un test de force. Dans ce cas-là, tu vas prendre ton dé à 20 faces, tu vas le jeter. Quand tu vas le jeter, tu vas avoir un résultat, on va dire par exemple 12. Et puis toi, dans ta fiche personnage, tu as une caractéristique de force, dans laquelle tu vas avoir écrit par exemple plus 3. Tu vas faire 12 plus 3, ça va te donner 15. Si moi j'ai évalué en tant que maître de jeu la difficulté de cette action à 12, on va dire que là tu as réussi. Si je l'évalue à 18, eh bien là tu n'as pas réussi à soulever cette caisse. Tu t'es juste exposé quelques veines au niveau du front. Voilà ce que je vais te dire.
Parfait.
C'est assez clair.
Et chaque test existe en fonction des différents jeux. Hein. Ça, c'est un exemple basé sur...
Oui, voilà. C'est un exemple. Après, les caractéristiques en fonction des jeux vaseries, etc. Moi, je suis resté dans les caractéristiques très classiques, c'est-à-dire... celles qu'on retrouve vraiment dans les jeux de base, force, constitution, intelligence, sagesse, charisme et dextérité. J'avais oublié. Donc c'est les 6 que je conserve, que je trouve qui me parlaient, parce que j'avais cette expérience aussi des jeux RPG où j'en voyais de temps en temps dans les jeux vidéo que j'aimais bien. Donc c'était un petit peu un écho à ma propre nostalgie. Et donc, j'ai voulu changer, par contre, un principe sur la création de personnages qui peut être longue et fastidieuse, en faire quelque chose de très simple, de façon à ce que ton personnage tu puisses le créer en moins de 10 minutes.
Ok, et comment tu fais ?
Alors, il y a la théorie. Dans la théorie, s'il faut te palucher toutes les règles, je l'explique en détail. Et ça n'a rien de marrant, en fait. Et je voulais que moi, ce soit marrant de le faire. Donc, j'ai créé l'outil où tu choisis tout d'abord ce que j'appelle... ça s'appelle pas des races, ça s'appelle des ascendances.
Ok.
Donc là, on est dans le monde fantasy. Donc on va dire, t'as le choix entre un nain, un demi-orc, un elfe, un alphelin, etc. Ça va te donner un début de statistiques pour tes personnages. Ensuite, tu vas choisir ta classe, c'est-à-dire guerrier, ombre, croyant et le dernier que j'ai créé, Mystique. Voilà, c'est les 4 regroupements que j'ai fait et qui vont te donner un complément de statistiques. Et au final, en fait, tu vas construire tes personnages comme ça, sachant que dans les 2 choix que tu as fait, tu vas avoir un certain nombre de points libres que tu pourras t'attribuer et ce que j'appelle des points d'adaptabilité, c'est-à-dire des points que tu vas enlever quelque part pour mettre ailleurs.
Ok, c'est cool.
Voilà. Donc t'arrives là, t'as fait ces 2 choix, c'est pas terminé, t'en as encore un à faire, mais là, tu peux déjà construire les statistiques de ton personnage, et je parle bien de construction. Tu ne tires pas les statistiques de tes personnages en jetant des dés comme c'était le cas ou c'est encore le cas de pas mal de jeux. Tout est issu de tes propres choix. Et derrière, ensuite, tu vas choisir la tenue qui vont être filtrées par le choix de ta classe que tu as fait juste avant. Imaginons que tu sois une classe guerrière, mais tu vas avoir une tenue de protecteur, une tenue de berserker, une tenue de épéiste. Et tu vas pouvoir avoir avec cette tenue des capacités associées. Ce qui va te permettre d'avoir toute ta progression liée à cette tenue que tu vas porter. Et qui va pouvoir être de plus en plus puissante au fur et à mesure des niveaux que tu vas passer. Ça reste assez simple, il n'y en a que 8 capacités, mais chacune de ces capacités... elle peut évoluer 3 fois en puissance.
Ok. Petite question qui me vient là. On pourra changer de tenue en cours de route ou pas ?
Et c'était au départ mon intention et puis je me suis aperçu qu'en fait le faire, ça impactait trop les règles. Donc il y avait trop de souplesse. Au bout d'un moment, ça commence à créer des effets de bord pas voulus. Donc malheureusement non, quand tu commences à choisir ta tenue, elle est liée. Par contre, tu vas avoir la possibilité de te multiclasser avec ce que j'appelle les surtenues, c'est-à-dire... logiquement, c'est prévu pour du endgame, c'est-à-dire le endgame, c'est au niveau 8. C'est facile d'arriver au niveau 8, sachant que en termes d'XP, parce que tu passes des niveaux, tu sais, au fur et à mesure des parties, il te faut en point d'XP 2 fois la valeur de ton niveau actuel pour passer ton niveau. T'es niveau 3, pour passer au niveau 4, il te faut 6 XP, merci.
Oui, pardon, non, mais les maths et moi, ça n'a jamais été... Je ne m'attendais pas à ce que tu me poses la question, surtout. Je me suis dit, ok, il y a un blanc, qu'est-ce qui, okay. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est pas grave, excuse-moi. J'étais un peu cavalier seul, là, c'est pas grave.
Nolwenn ne m'a pas aidé non plus. Hein.
Bonjour Nolwenn.
Bonjour, moi j'écoute, je bois vos paroles.
C'est ça.
Donc voilà, une fois que t'as choisi tes tenues, tu choisis tes compétences, machin. Et ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport à certains jeux avant, tu as, alors certains bien, mais moins pour des novices, vu que ça s'en rentre là-dedans, avoir tout un équipement, comme avoir le plastron, le pantalon, les bottes, le chapeau, je dis non, t'as une tenue. À la limite, en règle avancée, tu peux gérer la détérioration de ta tenue et faire des réparations sur celle-ci, mais je trouvais que sur le papier, comparé à du jeu vidéo, c'était long et parfois parsemé d'erreurs quand tu faisais de l'équipement au petit j'ai pas le terme,
oui,
là
justement dans,
voilà, du petit document équipement par-ci par-là, non, donc j'ai voulu la tenue, c'est tout. Après, derrière, rien ne t'empêche, en tant que maître du jeu, d'octroyer quelques artefacts magiques qui vont avoir des plus ou moins d'effets, ça t'es libre de le faire. Mais la tenue reste le truc principal, et donc tu peux te focaliser uniquement sur l'évolution de tes compétences de tenue ou l'évolution de tes armes qui, elles, peuvent évoluer et sont indépendantes de la tenue. Donc armes pour tout ce qui est attaque et tenue pour tout ce qui est compétences et protection.
Ok.
Voilà. Tu fais ça sur le site web, t'as tout en haut quand tu y vas, si tu peux créer gratuitement autant de personnages que tu veux. Par contre, pour les enregistrer, il va falloir que tu aies un compte. Quand tu les crées, à la fin, tu vas pouvoir juste imprimer ta fiche personnage pré-remplie. Si tu es connecté et que tu l'enregistres, tu vas aussi accéder à la fiche personnage interactive sur le site. Donc, tu n'auras pas nécessairement besoin de l'imprimer. Tu pourras l'utiliser sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Mais si tu as envie de juste t'en servir comme support de stockage, mais tu peux parfaitement imprimer ta fiche de personnage et la mettre à jour quand tu as terminé ta partie avec tes copains.
C'est un outil multitâche, en fait, ce site.
Exactement, l'idée, c'était d'un peu tout rassembler, et d'ailleurs, j'ai pour projet aussi de permettre à tout un chacun de déposer des scénarios.
Ok.
Là, pour le moment, on en propose trois one-shots, et je crois qu'à partir de la rentrée septembre, je vais me mettre à avancer sur une petite campagne de 4 scénarios, une campagne d'initiation pour un peu mettre le lore en avant, ce qu'on a fini par écrire avec un ami qui m'a rejoint qui s'appelle Christian Bernard et qui a écrit tout le lore avec mes directives pour que le lore colle au système.
Parfait.
C'est pas le système qui colle au lore, c'est le lore qui colle au système, c'est assez rigolo.
Ouais, mais si ça marche, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où va venir ma question. Mais quel est-il, ce lore ?
Ah, alors, le lore. On a fait un lore assez large, puisqu'on parle de... On est parti sur quelque chose de multiversel.
Ok.
Donc, je vais pas en dire, parce que je vais laisser un peu les gens découvrir au niveau de la lecture, mais je vais dire quand même les clés pour bien le comprendre et pour comprendre les intentions derrière ce lore. Donc je disais que c'était multiversel dans le sens où moi mon intention quand c'est un système, c'est de faire quelque chose de suffisamment générique pour qu'on puisse y adosser différents univers comme là où on développe la fantasy parce que c'est le gros de l'entonnoir, mais après derrière il n'empêche qu'on aille développer le post-apocalyptique, le galactique, le ce qu'on a envie, peut-être pas l'horreur parce que quand même c'est des mécaniques un peu différentes pour créer du stress. Et encore, bon, on verra. Mais en tout cas, quelque chose d'assez commun, un socle commun qui va nous permettre de développer finalement des tenues pour différents univers. Et donc, il y a quelque chose de multiversel. Et pour justifier ce côté multiversel, on a décidé de partir bien en amont de tout début, ce qu'on a appelé l'absolu, avant la création des univers.
Okay.
Et on a commencé à partir sur une espèce de cosmogonie autour de ça. La création des univers, l'apparition de portails, comment les univers se sont créés, qui a créé les univers, le pourquoi, le comment, et aussi quel impact ça a eu ensuite, une fois que les univers ont été créés, le fait qu'il y ait peut-être des portes qui communiquent entre elles, on ne sait pas. Il y a peut-être eu des interactions. Et qui sait, peut-être que un dragon va venir affronter un vaisseau de l'espace à la Star Wars, on ne sait pas.
Qui sait enfin, ce que l'avenir vous réserve.
Voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, même nous, on ne sait pas ce que l'avenir vous réserve, mais on y réfléchit ardemment à certains moments, et en tout cas, on va y aller dans la création de scénarios. Là, il y a visiblement Christian qui, ça fait un petit moment, qui réfléchit sur la création d'une grosse campagne là-dessus. Moi, je réfléchis sur des petites campagnes. J'ai assez de travail, je vais dire.
J'imagine un petit peu, ouais. Ok. Alors, moi, je vais avoir deux questions supplémentaires. Si tu devais convaincre quelqu'un d'aller jouer à World's Awakening, en vraiment quelques mots, le pitch perfect, tu vois.
Le pitch perfect
Dur.
Alors, je dois convaincre quoi? Un joueur ou un maître de jeu?
Les deux. Tu fais deux pitchs si tu veux.
C'est pas le même discours pour l'un et pour l'autre en général. Si je dois convaincre le joueur, c'est un jeu très facile d'accès. Tu vas passer 15-20 minutes à regarder ta fiche personnage maximum, et une fois que tu as compris, c'est fini, tu te poseras plus de questions, tu pourras jouer. C'est ça la grande force de ce jeu, c'est que c'est très simple et très rapide d'accès. Tu es avec des copains en soirée, vous savez pas quoi faire, vous pouvez improviser une partie, si tant est qu'il y en a un qui connaisse un scénario, c'est plié.
Oui, puis il suffit d'avoir un téléphone.
Oui, il suffit d'avoir un téléphone ou un copain qui a une imprimante et c'est fait en 3 minutes. Donc oui, tout à fait.
Royal.
Pour ce qui est des maîtres de jeu, là, tu vas être un peu plus gâté parce que tu vas pouvoir aussi créer tes propres créatures. Et le principe notamment des créatures, c'est qu'elles sont scalables. Scalable, ça veut dire que tu n'as pas besoin de dire que qu'une créature a un rang général ou je ne sais quoi pour augmenter ses statistiques. Tu as toute la courbe de progression de la créature du niveau 1 au niveau 10. Et tu choisis. Tu choisis quel niveau va être. Il y a même dans le guide des recommandations sur comment équilibrer tes rencontres de façon à proposer un défi adapté à tes groupes, qu'ils soient de niveau identique ou pas. Et aussi, la force de ce jeu, c'est que tu vas pouvoir jouer un niveau 8, va pouvoir côtoyer un niveau 3. Bon, dans les faits, j'imagine que ça va créer quand même quelque chose de pas très cool pour le niveau 8 qui va se taper des petits monstres. Mais bon, c'est au maître de jeu, après, s'il a envie de favoriser que les gens gardent leur personnage d'une session à l'autre et ne jouent pas forcément avec les mêmes personnes, j'ai pas voulu l'interdire et c'est quelque part un peu prévu.
Ok.
Voilà. Est-ce que tu es convaincu ou est-ce que tu veux que j'en dise davantage?
Ah bah, moi, tu peux en dire davantage, mais je pense que Noël a une question.
Effectivement, j'ai une question. Tu parlais du fait que c'était hyper accessible pour des joueurs. Voilà, en 20 minutes, c'est fait. En soirée, en un claquement de doigts, c'est un énorme avantage, effectivement. Et pour les joueurs qui veulent vraiment, qui veulent poncer le système de jeu, qui veulent explorer, qui veulent extraire la moindre goutte de fun de tout ce que tu as créé, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable, comme par exemple Donjons et Dragons, on peut vraiment aller chercher loin, on peut gratter? Est-ce que ça s'adresse aussi à des joueurs qui, s'ils tombent amoureux de ton univers, ils peuvent y passer des sessions et des sessions entières, des campagnes sur plusieurs années, etc.
Alors, au niveau de mon univers, c'est quelque chose d'assez... Je trouve que l'on a fait quelque chose d'assez light, mais suffisant. C'est-à-dire que là, pour le moment, vous avez de quoi imaginer des choses. Pour le moment, moi, ça fait un an et demi qu'on a créé le contenu. Entre le site outil et entre le système, ça va être... Ça va paraître assez léger par rapport à du Donjons et Dragons. On va pas se le cacher. Ou clairement par rapport à du Space Finder, où tout est prévu de long en large en Z. Je m'adresse pas à cette cible-là. Je m'adresse vraiment à du casual gamer qui, par exemple, n'a jamais entendu parler du jeu de rôle et a envie de le découvrir. Donc, dans ce contexte-là, le site propose tout gratuitement. Tu t'y connectes, tu as gratuitement les règles en ligne. Les règles, qu'elles soient pour le joueur ou qu'elles soient pour le maître de jeu, tout est accessible en ligne. Si tu as envie d'en avoir une copie chez toi, t'as un petit bouton où il y a écrit version imprimable et tu peux télécharger ça comme un PDF exploitable. C'est pas un joli PDF, mais c'est l'avoir stocké sur ton... Voilà, exploitable. Ensuite, comme le bestiaire est communautaire, ça, c'est toute la communauté qui y vient et qui propose des créatures régulièrement. Je pense qu'à terme, on va mettre quand même un système de certification là-dessus pour qu'il y ait un peu plus de qualité plus que de la quantité, enfin qu'on arrive à faire la distinction entre les deux. Et après, tout le reste, tu vas le trouver. On a aussi le codex dans lequel tu retrouves les classes, les races, les tenues, les objets, les armes, tout ce qui nous semble important pour que tu puisses y aller à fond dedans. Ça répond à ta question, Manuel ?
Ben, complètement. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Le bestiaire est communautaire. Ouais. C'est-à-dire que si moi j'ai une créature, là je peux la poser comme ça, tranquillou.
Ouais, tout à fait.
J'espère pour toi que Nalouen n'a pas trop de temps libre en ce moment. Sinon, t'es foutu.
Tu es au chômage, quel dommage.
Ah, j'ai eu pas mal de gens qui étaient à dire. Faut juste que tu te rencardes un petit peu sur comment créer les créatures. La première va être un petit peu déroutante, mais tu verras qu'en fait, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, une créature, tu l'as créée montre en main en 15 minutes. Ça sera très très vite fait.
Oui, je te crois.
Et tu pourras bien sûr l'imprimer pour l'utiliser à ta table de jeu où tu as toute la courbe à chaque fois de progression qui t'est imprimée et tu as de quoi faire le suivi des PV d'une ou plusieurs créatures sur cette même fiche.
C'est trop bien. Vraiment, je trouve ça hyper cool comme idée de dire si tu veux que Francis, le MJ depuis 2 mois, veut introduire son chien Franky dans le jeu, il peut introduire son chien Franky. Je trouve ça trop cool.
Mais carrément.
Tout à fait.
Ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si tu connais la Fondation SCP ou pas.
La Fondation SCP ?
Ouais. C'est un site communautaire sur des éléments fantastiques où ils ont émulé en fait une espèce de fondation qui est une sorte de Men in Black en fait, qui lutte contre des créatures un peu fantastiques. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est associatif et que n'importe qui peut créer une anomalie qui va être validée par les pairs de la communauté, qui va être classée avec un numéro et compagnie. Et j'imagine bien en fait les créatures fonctionner sur le même système avec un aval de communauté qui pourrait les classer selon certains éléments déterminés. Ça pourrait être cool.
Ah, peut-être, pourquoi pas, ouais, pour une avancée, à creuser. mais ça me parle, oui, c'est le truc, plus tu descends, plus les histoires sont folles.
Ouais.
C'est ça.
En fait, faut juste pas le mettre le doigt dedans un soir parce que sinon tu dors pas et parce que non seulement il y a certaines histoires qui sont très 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 flippantes et surtout c'est tellement passionnant en fait qu'on moi j'ai passé des heures en fait juste à lire les trucs et j'ai fait mais c'est trop bien quoi.
Ah mais si tu dois en faire une source d'inspiration pour des scénarios de type one shot, c'est génial.
Ça c'est ce qu'il y aura dans la prochaine saison des Voix des Scénariums, c'est prévu.
D'accord. OK. Bah, cool.
Et ben parfait. Et du coup, j'ai une one last question. Où est-ce qu'on peut voir World's Awakening ou simplement suivre ce que tu fais?
Alors, ben, je suis un peu présent sur tous les réseaux, mais pour commencer, tu peux déjà aller voir sur le site internet. Tu cherches dans Google World's Awakening. Sinon, l'adresse exacte, c'est world-awakening.com.
Aussi simple que ça.
Voilà, disponible en français et en anglais.
Le site précédent, c'est toujours disponible. C'était sur.
Oui, Chronique Oubliée est toujours disponible, bien entendu. C'est co-drs.org.
Ok, parfait. Est-ce qu'on peut te trouver sur d'autres réseaux sociaux, d'autres choses?
Ben oui, tu peux me trouver sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch. Sur TikTok en mon nom propre, puisque ben, du coup j'avais commencé à faire quelques vidéos où je faisais un peu de guitare parce que c'était ma passion de base machin, et puis après je réoriente tranquillement le compte vers quelque chose d'un peu plus orienté jeu de rôle et je le fais petit à petit.
Sachant que voilà. Tous les liens sont en haut à gauche sur le site World's Awakening, c'est ça hein?
Oui, voilà. Bon, en général, tu vas pouvoir avoir le Linktree quelque part si jamais je l'ai oublié, mais. Il y a peut-être encore des oublis qu'il va falloir que je cale ici septembre au niveau réseau, mais tu vas me retrouver assez facilement. Maintenant, tu cherches World's Awakening, tu ne devrais pas pouvoir te tromper. Ah oui, et bien sûr, le Discord, puisque c'est par là que la communauté nous rejoint et avec qui je peux le plus facilement échanger. Le Discord est disponible vraiment à peu près partout et bien entendu sur le site où je le mets très en avant.
Fabuleux. Je vois pas quoi dire de plus. Hein.
Après, qu'est-ce que je peux te dire qu'on fait des vidéos avec des copains comme Richout de la team Javraf qui a joué avec nous.
Ça va, il est sympa lui ou pas?
Il paraît que c'est un
con. Il est génial.
On le taquine. Il est pas avec nous ce soir, mais on le taquine.
Il a été adorable avec moi quand je faisais justement CODRS. Il m'a contacté à un moment donné. J'avais eu un petit coup de mou et puis il a été vraiment très présent. Alors qu'on se connaissait pas, il a été génial. Et franchement, je pense que c'est un mec super.
Je lui rapporterai, effectivement.
On va lui dire. pour conclure, est-ce que tu aimerais qu'on passe un morceau musical de ton choix, comme ça, de but en blanc?
Ah, franchement, tu me ferais plaisir si tu avais ça quelque part.
Alors,
je suis à la base un gros geek, faut le savoir.
Ok.
Et j'aime bien tout ce qui est manga et tout ça. Et il y a un morceau qui pour moi est un peu iconique au niveau des mangas qui était le générique d'un drama qui s'appelle Dan Chao Toko, mais qui lui-même faisait autre chose. C'est un morceau de Electric Light Orchestra et qui s'appelle Twilight.
Eh ben, je vais regarder si je peux te trouver ça. Twilight.
Un morceau de 88, je crois, 83 peut-être, 83.
Eh ben, on va se mettre ça. Mettre Electric Light Orchestra et Twilight. Et puis, on se retrouve tout de suite après sur le 100.5 de Radio G.
Merci beaucoup.
On a un petit souci, ça va venir, promis. Ça va marcher. C'est juste que ça veut pas sortir sur le bon canal. Fabuleux. Voilà. Allez, à tout de suite.
I Radio G 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours les voix du scénarium, c'est toujours Sabo au micro, avec toujours Nolwenn de l'autre micro. Ça va, hein?
Ça va, ça va.
Bon.
Toujours là.
On va.
Oui.
Oui.
Oui, hein.
Voilà.
Ça me va.
Tu vas nous parler d'une bébête.
Ah ouais, une sacrée bébête, on va finir en beauté.
Une bébête iconique.
Ouais.
Je ferai comme si je la connais pas dans la chronique.
Oui, c'est vrai. Tu... Hop là, je te vole ta mémoire.
Allez, à tout de suite. Générique d'abord. Allez, ce soir, ça veut pas faire ce que je veux.
Mais allez, générique. La légende raconte que son câble ne fonctionnera qu'une fois sur sept.
Mais en même temps, attends. Mais non, c'est normal ça. Attends, on recommence. Allez, on va parler d'une bébête iconique ce soir. Mais d'abord, générique. Il va manquer ce générique pendant les vacances.
Ouais, en vrai, il va me manquer. Pour bon. L'anecdote, j'ai jamais fini Jurassic Park, du coup, il y a une référence dans, dans mon générique que je n'ai même pas.
T'as jamais fini? Mais jugez-moi. Pourquoi?
Je me suis endormie avant la fin.
Oh, le jugement que j'ai, là, d'un coup.
Ah, ça va.
Bon, allez. Vas-y. De quoi tu nous parles ce soir?
Ah, je vais vous parler d'une créature vraiment, vraiment symbolique, vraiment particulière. Parce qu'on en a fait des choses au cours de cette saison. On a parcouru, arpenté ensemble des grottes, des océans, des rivières, des déserts, des plaines et des donjons de tout genre à la recherche de bestioles toutes plus uniques les unes que les autres. Que ce soit par leur apparence impressionnante, malaisante, gigantesque ou bien encore leur capacité physique spectaculaire, ces créatures ne m'ont jamais laissé indifférente. Mais pour cette dernière aventure, j'espère que vous avez bien révisé vos bases et vérifié votre équipement. Car ici, nous ne trouverons de l'aide ni dans les folklores, ni dans les religions, et encore moins dans les mythologies. Nous nous trouvons dans les profondeurs du plus insondable donjon, et face à nous se tient une créature faite de chair visqueuse, de 3 mètres en taille, qui lévite à quelques centimètres du sol. Un œil énorme et globuleux surplombe une bouche difforme. Des dents en débordent, se chevauchant et elles sont orientées vers l'arrière. Une seule morsure et c'est la perte assurée d'une main ou d'un bras. Et comme si cet œil unique ne suffisait pas, 10 pédoncules tentaculaires s'agitent sur le sommet de cette créature, avec chacun à leur extrémité un autre œil à la couleur distincte.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien ce truc, comme tu dis, n'est autre qu'un tyranneuil. Et tu ne trouveras sa trace ni dans aucune enluminure moyenâgeuse, ni dans aucun conte africain ou sud-américain. Il est né de l'esprit de Terry Kuntz et apparaît pour la première fois dans le livre du jeu de rôle Donjons et Dragons, Greyhawk, en 1975, ce qui est plutôt récent. Et pour certains, il est même devenu le symbole de la licence, avant même le dragon.
Eh ben.
Et ouais, stylé le gars. À noter qu'ici, on a bien affaire à un tyranneuil originel et non à une sous-espèce telle que Keith Parkinson a pu en décrire par la suite. Lui, il en a inventé avec des écailles blindées et des tentacules articulés comme les arthropodes. Et bien sûr, la communauté en a créé avec, en lien avec plein de biomes différents. Soit, revenons à notre tyranneuil original. Au final, est-ce qu'il n'est réellement qu'un délire de rôliste ou est-ce qu'il est plus proche du monde réel animal qu'on voudrait y croire? Et pour y répondre, je pense que les premiers éléments de réflexion intéressants sont ses tentacules oculaires. Le groupe vaste des mollusques comporte des espèces qui ont des organes très similaires, chez les escargots par exemple. Cependant, pour ces espèces, la vision est plutôt très mauvaise. Ils ne détectent que les ombres, l'intensité de la lumière et l'orientation lumineuse.
Leur vision est basée sur le mouvement.
Et leur vision est basée sur les ombres et la lumière. Mais n'oublions pas que le tyrannoï, lui, il possède un œil bien plus grand au-dessus de sa bouche. Et celui-ci n'est porté sur aucune tentacule. Toujours chez les mollusques, la pieuvre ou la sèche ont des yeux similaires. Et pour ces espèces, leur vision est très performante. Ainsi, la vision efficace de cette créature reposerait surtout sur l'œil unique au centre, avec en renfort les yeux tentaculaires mobiles. Ceux-ci pourraient agir comme détecteurs pour déceler les mouvements à 360 degrés, sans pour autant percevoir de détails.
Tu m'expliques pour les dents ?
Ah oui, alors pour les dents, on va rester du côté des mollusques pour trouver une solution. Que ce soit pour les escargots ou les pieuvres, chez eux, l'alimentation est facilitée par un organe qui est plutôt ingénieux. Il s'agit de la radula. Pour simplifier, il s'agit d'une sorte de langue râpeuse avec laquelle ils vont venir manger leurs aliments. L'escargot broute les végétaux et la pieuvre racle la chair de ses proies. Et cette radula, elle est tout à fait singulière car elle est constituée de plusieurs rangées de dents de chitine, c'est-à-dire la même matière que la carapace des scarabées. Et la chitine, ça peut être très très solide. Et ces dents s'alignent et s'organisent en rangées tout au long de la langue.
Dégueu.
C'est très stylé au microscope.
Ok.
Et si le tyrannoï a des points communs avec les mollusques concernant la vision, ça semble aussi cohérent qu'il soit équipé de deux énormes radulas, une en haut, une en bas, et ce qui peut donner cette impression de mâchoire. Donc, une énième caractéristique empruntée aux mollusques pourrait venir expliquer, du moins en partie, sa carapace de lévitation, si on reste cohérent avec ses évolutions. Au même titre que les sèches et les limaces, sa coquille pourrait être interne. Plus particulièrement, les coquilles internes des sèches sont légères, car constituées d'aragonite, et elles sont poreuses, ce qui permet également le stockage et la compression de gaz. Et de cette manière, les sèches améliorent grandement leur flottaison. Elles peuvent choisir si elles préfèrent aller plutôt en surface ou se laisser couler. On peut donc imaginer que le tyrannoï bénéficie d'une coquille similaire, adaptée à ses besoins de lévitation grâce à un gaz spécial et un peu de magie. Donc pour résumer, le tyrannoï, il emprunte des caractéristiques liées aux mollusques à la fois pulmonés, les escargots et les limaces qui vivent sur la terre ferme, pour ses tentacules oculaires. Et il emprunte aussi des caractéristiques liées aux mollusques à branchies comme la pieuvre ou la sèche pour sa vision très performante avec son œil central et sa coquille légère. Et la radula est commune aux deux. Ça en fait une sacrée chimère. Et si les folklores et contes inspirent les bestiaires de jeux de rôle, concernant le tyrannoï, peut-être qu'il aura la chance de faire le chemin inverse et de devenir une créature fantastique à part entière, faisant trembler à la fois les rôlistes et les néophytes du genre.
Eh ben, en tout cas, on n'a pas envie de le croiser autour d'un couloir.
C'est vrai, on n'a pas envie de le croiser autour d'un couloir.
Ni en vrai, ni en jeu.
Ni en vrai, ni en jeu. La fiche, je me suis penchée sur les statistiques un peu, et c'est un délire, le machin.
Pour le dire franchement, pour en avoir croisé dans ma carrière de rouliste, c'est une belle saloperie. Voilà. Et c'est poli et cordial. Hein. Il n'y a pas...
très bien, restons poli et cordial.
Merci, Nolwenn.
Mais de rien. C'était un plaisir.
Que dire de plus
Que dire de plus ?
Explain
to me. Je fais une parenthèse dragon. Parce que suite à... Alors, dragon, pas dragon, les bestioles, mais dragon, la licence How to Train Your Dragon.
Yes.
Avec le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a Fibre Tigre, je crois, si je n'écorche pas son pseudo, qui a fait une session, un one-shot avec plusieurs invités. Et c'est sur YouTube.
Oui.
Et franchement, c'était bien.
C'était cool.
Vraiment, j'ai lancé la rediff. Je me suis laissé porter. Franchement, c'était bien. J'ai bien aimé. Si vous êtes connaisseur ou connaisseuse de l'univers, ou même si vous ne connaissez pas beaucoup l'univers de Dragon, vous n'avez pas vu le film ou quoi, vraiment, non, il est bien. Pour un jeu de rôle dans un univers où il y a des vikings et des dragons, c'est... Moi, j'aime bien.
Ça marche bien, les dragons, du coup, là, ils ont fait vraiment...
Ouais, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de cool.
Il va falloir que j'écoute ça.
Ouais, c'est très très bien.
Bon... Petite annonce, si jamais vous voulez rejoindre les rangs de Radio G, de la Caisse de Seb, n'hésitez pas à envoyer un mail directement à la radio. Si vous voulez rejoindre la Caisse de Seb, les Voix du Scénarium, à moi-même, lacaisseseb.radioG@gmail.com. Si vous avez des chroniques, si vous êtes trop lisse, si vous avez envie de faire des trucs, alors, je suis preneur. J'ai plein de projets pour l'année prochaine. Je vais essayer d'être un peu plus ordonné que cette année. Ce sera pas très difficile. Hein. J'ai notamment l'envie de vous faire découvrir des univers ou des choses qui peuvent être des inspirations pour le jeu de rôle. On parlait tout à l'heure avec Nicolas de la Fondation SCP, par exemple. Et je vois aussi des univers d'artistes, visuellement, graphiquement, qui peuvent être des grosses sources d'inspiration pour le jeu. J'ai tendance souvent à me diriger vers du jeu d'horreur parce que c'est ce que j'aime le plus, mais je pense qu'il y a tellement de choses à vous faire découvrir que on va créer une chronique là-dessus. Je sais pas si tu auras envie de nous refaire des chroniques de créatures.
Mais bien sûr, hein, moi je m'arrêterai pas hein. Tant que j'ai un micro pour dire mes bêtises et du temps libre, il y a pas de souci, je m'arrêterai pas.
Hein. Eh ben on va faire ça. Je vais rebosser des scénarios puisque les Actual Play, on en a pas eu tant que ça en fait cette année. Entièrement ma faute et un grand merci à Harry Schultz d'avoir su suppléer à mes manquements par un truc hautement plus qualitatif et du coup ça fait honte quand je fais moi des trucs, mais c'est pas grave. On ne peut que progresser. Tu sais,
il est passé par des trucs qui sont pas ouf, hein.
Bon.
Franchement, écoute, Layton, le village bizarre, tu verras qu'au niveau mon mixage.
Ouais, c'est pas fifou.
Il est très bien, hein. Moi, c'est mon préféré des Layton, hein. Mais je m'entends grincer des dents ici, mais t'inquiète pas, hein. Te okay. Dévalorise pas sur ton travail.
Je ne me dévalorise pas.
Ne vous dévalorisez pas, de manière générale, sur votre travail.
C'est un conseil d'Halloween. Voilà, c'est pareil, si vous avez des idées de chroniques, des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas, hein, le chat, il est là, le chat Radio G, pour communiquer avec nous, l'adresse mail, elle est là. Je vais essayer d'animer un petit peu plus les réseaux sociaux, et puis avoir plus d'interviews. On reparlera de la AMCL Suite que j'ai commencé à tester, et dans laquelle je ne me suis pas lancé suffisamment pour pouvoir en parler. AMCL Suite, c'est des gens qui ont créé une suite logicielle pour accompagner les gens sur la gestion de leur partie de jeu de rôle, la création d'univers et le suivi de partie. Notamment avec des notes. Il y a un système de chat en fait.
Okay.
C'est des notes, c'est un auto-chat avec toi-même.
On en avait peut-être déjà parlé, mais ça me fait penser à Obsidian. C'est une application, je crois.
Il y a quelques liens. Après, je trouve que AMCL Suite est vraiment dédié, okay. Plus complet. Mais il faut vraiment que je la teste en plus. Et le but, ce serait d'avoir une interview avec les créateurs, ce qui est dans les tuyaux. Ouais.
C'est trop bien.
Sachant que c'est des gens qui ont créé un logiciel et qui en vivent et qui ne font que ça. Donc, ce qui est plutôt rare dans le milieu.
GG à eux.
Ouais. Donc, voilà. Quoi d'autre? Je me pose la question de scénariser... Alors, je ne veux pas piquer le boulot de Nori Schultz, mais de scénariser... de re-scénariser des parties de jeux de rôle que je pourrais avoir faites, de les mettre en ambiance façon telenovelas, enfin je sais pas comment le dire, mais
façon fiction audio,
ouais, parce que je vous avoue qu'on a découvert, j'ai découvert vraiment le jeu de rôle Night, qui est une pure pépite, et je trouve qu'il y a moyen de raconter de très belles histoires dans cet univers de très belles façons.
En gros, tu voudrais faire une fiction audio basée sur un univers de jeux de rôle et potentiellement des campagnes que t'as sous le coude.
Voilà.
Ok.
Très bien résumé.
Très bien.
En fait, Nolwenn, je te nomme officiellement mon cerveau auxiliaire.
tu as un demi-cerveau à disposition.
C'est ça.
Je te le prête.
C'est ça. Non, mais il y a tellement en fait d'univers. Donc, créer des parties, les jouer et les ambiancer, c'est cool. Et après, faire éventuellement une fiction audio qui pourrait compléter ça, ça peut être cool aussi. Parce que c'est pas du tout la même façon d'écouter après.
Alors, je pose ça là parce que j'ai l'impression qu'on est sur un moment d'un peu de brainstorm où on vend un peu l'année prochaine pour faire pas mal de conventions en ce moment, pour avoir repris les conventions. En convention, ça peut être l'occasion aussi, si jamais tu bouges ou si jamais j'emporte un petit micro portatif, je sais plus comment on dit ça. Un micro nomade. Si ça t'intéresse, et si ça intéresse potentiellement des gens, d'avoir des infos sur des jeux de rôle qui ont des stands en convention.
Yes.
Il y en a certains. Je crois qu'on avait parlé de la caravane un moment.
Ouais, on en a parlé, parce que j'ai interviewé Xavier il y a pas très longtemps.
Ouais. Mais voilà, ça peut être l'occasion de se balader dans les quartiers un peu bouquins, romans, jeux de société et donner la parole aussi à des gens qu'on rencontre sur place. Donc dans l'effervescence d'une convention, ça peut être voilà, ça peut être un plus, je ne sais pas.
À le faire plus souvent, ouais, effectivement. Voilà. C'est à programmer et pourquoi pas même faire juste du ressenti de joueurs lors des conventions sur des découvertes.
Oh, oui.
Ouais. Vous venez de jouer à un jeu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc interview de l'auteur, interview.
En vrai, ouais, parce que du coup, ça donnerait juste un bonus, un temps de parole.
Bah yes, complètement.
Des jeux de rôle aléatoires.
Bah ouais. Et ben ce serait pas mal tout ça, moi je trouve.
On a du taf.
Ouais, on a beaucoup de taf. On va pas beaucoup se reposer cet été. Je suis en train de réfléchir, j'avais un jingle de fin, mais que j'ai oublié. Non, j'ai pas de jingle de fin, c'est pas comme les cases de Seb. Je suis perdu. J'ai besoin de vacances.
Il fait très chaud, vraiment, il fait très chaud dans la pièce.
Ça va être tout pour nous pour ce soir, pour cette saison. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On promet de faire un truc vraiment cool pour l'année prochaine. On a déjà plein de choses sous le coude, plein d'idées. On va brainstormer à fond. Et puis, on va vous laisser ce soir en compagnie d'Intoxica, qui va nous faire des belles choses ce soir, vous faire écouter de belles musiques. Allez, on se retrouve l'année prochaine pour parcourir et arpenter ensemble les voies du Scénarium.
December.